mes bien-aimés, j'espère que vous avez été aussi bénis que moi-même dans ce culte ce matin. J'ai vraiment ressenti une visitation de l'Esprit, et spécialement quand nous avons chanté ce cantique « Chaque instant de chaque jour ». Il y a comme un frisson de l'Esprit qui s'empare de nous. En Jésus, je puis me confier. Parce que, voyez-vous, mes bien-aimés, c'est une question non seulement quotidienne, mais une question de chaque heure. Non seulement une question de chaque heure, mais une question de chaque instant, de chaque jour. En Jésus, je puis me confier. Il n'y a pas un moment où il n'est pas là. Cet ami que jamais rien ne lasse. Oh, que c'est bon d'entendre cela. Me soutient, sait me vivifier. Et son cœur, si patient, si tendre, sait pourvoir aux besoins de ma foi. Nous sommes sauvés par la foi, mais pour vivre quotidiennement une vie de foi. Et non seulement quotidiennement, mais instant après instant. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, à mes amis, mes bien-aimés. C'est un apprentissage. L'apôtre Paul dit, j'ai appris, oui, j'ai appris à être content dans la situation dans laquelle je me trouve. Je sais être dans l'abondance, je sais être aussi dans les privations. J'ai appris. C'est au travers de la souffrance que le Seigneur nous apprend ces choses. Lui-même aussi nous le dit. On l'a vu dans le camp que nous venons de quitter. Il nous l'a montré plusieurs fois. Lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. De sorte que nous ne pouvons pas, si nous voulons suivre Jésus avec ses disciples, nous ne pouvons pas désirer un autre chemin que le sien. Le sien a été celui de la souffrance. Pour Jésus qui était Dieu lui-même, se faisant homme, obéir était une chose tout à fait nouvelle. Lui qui dirigeait tout, il apprit l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Enfant, nous le voyons soumis à ses parents. C'est quelque chose de bouleversant. J'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Est-ce que vous le savez? Personnellement, individuellement, est-ce que vous réalisez que vous comptez pour lui? Pourquoi est-ce que vous ne compteriez pas? Il a donné sa vie pour vous. Vous n'êtes pas une personne anonyme pour lui. Vous êtes quelqu'un. Et lui aussi doit être quelqu'un pour vous. Lisez un peu la parole et vous verrez toujours ce quelqu'un dont il est question. Quand Jean a ses visions à Patmos, il vit quelqu'un. Et il faut savoir qui est ce quelqu'un qui occupe nos vies. Et oui, je vous témoigne cela, que le Seigneur nous visite dans le chant d'un cantique. Et nous sommes comme transportés, nous avons comme un avant-goût du ciel. Nous sentons, comme mon bien-aimé frère le disait bien, ces choses visibles, ce corps de chair avec ses infirmités, bien, on le sent déjà disparaître et nous voici renouvelés de jour en jour, par la puissance du Saint-Esprit. Certes, nous ne nous faisons pas d'illusions sur notre corps de chair, n'est-ce pas? L'homme extérieur, il dépérit. Nous sentons bien ce dépérissement, mais nous ne vivons pas du dépérissement. Nous vivons du renouvellement. Et c'est cela qui est magnifique. Et comment? À force de drogue? Non, mes amis. Dans cette confiance éperdue au Seigneur, dans cette abandon continuel, instant après instant. Eh bien, ceci dit, mes bien-aimés, je suis très ému quand même, parce que je me souviens que dans nos premiers camps Mahanaïm en 1970 et 11, c'était devenu une espèce de tradition que le premier dimanche, après ce camp de Dieu, nous nous retrouvions toujours, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin parce qu'on le demandait, à Maranatha. Et c'était vraiment une heure bénie parce qu'on voyait tous ceux qui avaient participé au camp de France, de Belgique, et, ou d'Italie, d'Israël aussi, puisqu'il en est venu, et d'Égypte. Eh bien, on se retrouvait tous ici encore dans cette communion fraternelle, et les amis voyaient ce qu'est une communauté et où l'on se reçoit les uns les autres, non pas parce qu'on est d'un groupe ou d'un autre, mais comme Christ nous a reçus à la gloire de Dieu. Et c'était pendant des années une grande bénédiction, et j'en étais moi le premier heureux. Et voilà que cette année, eh bien, il semble que cette tradition, même si c'était le dernier camp à Anaïm, eh bien, c'est comme un point d'orgue. Hein. Le Seigneur a permis que, sans que moi je le veuille, nous soyons ici. Et je suis très touchée de ce que Jean-Marc ait eu aussi cette pensée, non pas qu'il ait calculé cela, mais c'est le Seigneur qui nous l'a donné, parce qu'il était question que ce soit un autre dimanche, puis ça a été le dimanche qui fut le camp, et nous voici avec vous tous qui n'avez pas participé à ce camp, mais qui avez été aussi en prière avec nous, qui vous qui nous avez portés, parce que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre d'un homme. L'homme, il passe, nous ne faisons que passer parmi vous. Et si vous pouvez recevoir quelques bénédictions, ce n'est pas de l'homme, mais c'est de celui que vous avez pu voir au travers de nous, et c'est tout. Hein. Alors c'est à la personne de Jésus que nous sommes attachés. Et cette nuit, j'avais demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire à Maranatha? Il faut que ce soit un message de ton cœur. Et puis, je n'ai pas à m'occuper des fatigues précédentes. Seigneur, toi, tu n'es pas fatigué. Alors, il m'a réveillé et puis il m'a donné, je crois, un message. Et ça allait, c'était si rapide que j'ai pu me recoucher et dormir encore jusqu'à 5 heures. Mais j'étais délivré de tout souci. Il est tellement tendre, cet amour si fort, si tendre. C'est vrai ce que nous chantons. Et c'est pourquoi je voudrais que davantage, quand vous chantez, vous pensiez aux paroles que vous exprimez, parce que ça doit être la réalité de notre cœur, cet amour si fort, si tendre. Il est tendre, notre Seigneur Jésus. Alors, ce que le Seigneur m'a donné, et je m'en vais vous le lire dans les trois évangiles, vous allez dire, ben, il retombe dans sa coutume de se répéter et de se re-répéter. Eh bien, le récit, il nous est donné dans les trois évangiles. Et il y a peut-être un mot de plus dans chaque évangile, mais ça forme un ensemble. C'est l'histoire que vous connaissez tous, et vous allez peut-être être déçus en disant, bon là, c'est cette histoire. Le jeune homme riche. Et cette parole que le Seigneur m'avait donnée cette nuit, c'était, que me manque-t-il encore? Vous venez d'avoir été béni dans cette retraite, certains de Mahanaïm, et vous tous, vous êtes là, vous êtes venus ce matin, puis peut-être vous avez beaucoup déjà, vous avez beaucoup reçu, il n'y a pas besoin de venir au camp Mahanaïm pour recevoir. Si vraiment vous êtes de ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, vous recevez chaque jour. Hein. Car le Seigneur ne peut pas vous donner plus que si vous avez compris une vérité, vous devez la vivre. Et une fois que vous l'avez vécue, le Seigneur vous donne. Si vous ne vivez pas selon les vérités que vous avez comprises, le Seigneur ne peut pas vous en donner plus. Il attend que vous mettiez en pratique. Et alors, eh bien, vous vous dites peut-être, ben oui, c'est vrai, j'ai beaucoup reçu, mais j'ai pas encore tout à fait la joie, j'ai pas encore tout à fait la paix. Que me manque-t-il encore? Et on va trouver où il est dit cela. Que me manque-t-il encore? Et qui a dit cela? Que me manque-t-il encore? C'est l'histoire du jeune homme riche. Nous lisons d'abord dans Matthieu, pour vous montrer qu'il ne faut pas seulement lire un évangile, mais il faut les lire les trois, puis pas se dire, oh, ce n'est que la répétition. Chapitre 19, verset 16. Voici un homme, alors notez bien, un homme, on ne sait pas ce qu'il est, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon ?» On veut faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? » lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est au fond les commandements de la seconde table et qui se rapportent à nos relations avec le prochain. Verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ? Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, oui, parfait comme Job, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Et vous connaissez la suite. Je lis maintenant dans l'évangile de Marc. Et remarquez si vous trouvez un mot de plus. Chapitre 10 de Marc, verset 17. Comme Jésus se mettait en route, après avoir fait quoi ? Béni les petits enfants. On a eu un camp d'enfants. Et vraiment, on a été bénis parce que Jésus bénissait les petits enfants. Eh bien, comme Jésus se mettait en route, verset 17, un homme accourut et se jetant à genoux, ah, ça, on ne l'avait pas vu, hein, devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il était quand même préoccupé par cette vie éternelle, parce que nous savons bien que nous ne faisons que passer et qu'il n'y a pas d'espoir pour nous de demeurer ici-bas. Mais il se demande ce qu'il faut faire pour être sûr d'avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, d'abord, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Alors là, il est précisé. Hein. Qui est bon, c'est Dieu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, ça c'est pas dans Matthieu, hein, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. » Dans Matthieu, c'était le jeune homme qui disait, « Que me manque-t-il encore ?» Ici, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés encore plus, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda, et il dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et maintenant, nous lisons le dernier passage dans l'évangile de Luc, chapitre 18e, verset 18. Un chef, voilà tout à coup qu'on apprend que cet homme, qui paraît encore jeune, était déjà un chef, ou un notable, selon une autre version. Ce n'est pas le premier venu qui a arrêté Jésus. Un chef, comme Job aussi était un chef, interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as distribué aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche, comme Job était un homme très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Eh bien, vous voyez que la lecture de ces trois portions est vraiment nécessaire pour que nous saisissions l'ensemble du message que le Seigneur veut nous donner. Nous venons de parcourir au camp Mahanaïm le livre de Job. Et nous avions intitulé notre thème du camp « Connais-toi toi-même ». Et j'avais envoyé notre feuillet à quelques personnes de Suisse, de France, qui sont intéressées, qui ne sont pas nécessairement encore au Seigneur. Et dans mon courrier, hier soir, quand je suis rentré, il y avait une lettre d'un homme considéré de Neuchâtel, ma ville natale, mais avec lequel je suis toujours en relation, et qui me dit, c'est formidable que vous ayez pris la pensée de Socrate pour votre camp, connais-toi toi-même, bien sûr. Mais j'avais bien précisé que je ne prêterai pas le connais-toi toi-même selon les philosophes grecs ou à cause de l'inscription que l'on voyait sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même, mais en étudiant ensemble le livre de Job. Pour quelle raison? Parce que pour moi, le livre de Job n'est pas un traité sur la souffrance, loin de là, parce que ça ne donne aucune réponse. Mais le livre de Job, c'est vraiment connais-toi toi-même. Qu'est-ce qu'il manquait à Job? Il lui manquait cette connaissance de lui-même. Et pour lui apprendre à se connaître lui-même, eh bien, le Seigneur a dû tout lui enlever. À certaines personnes, il n'a pas besoin de faire cela. Mais pour Job, il était tellement sûr de lui-même qu'il était impeccable. Et il était un saint homme. Dieu disait de lui, il n'y en a pas un comme lui. Mais il se figurait finalement que sa justice, sa fidélité, sa piété, au fond, le rendait absolument impeccable, et il a fallu qu'il soit dépouillé d'abord de tous ses biens, de ses richesses, parce que c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il lui a été enlevé tous ses biens, pas parce que Dieu ne l'aimait pas, mais parce que Dieu voulait lui donner plus. Il voulait lui donner le double de même de toutes ses richesses. Alors, il lui enlève ses biens, puis comme ça ne suffit pas encore, Job est toujours correct avec Dieu, même dans la perte de ses biens, il bénit Dieu, il ne se révolte pas. Alors il faut une épreuve plus grande encore, il est touché dans son corps, et c'est sa santé et qui est minée par une terrible maladie. Et puis, comme cela n'est pas encore suffisant, eh bien il a sa femme qui devient elle, qui devrait être une aide, une épine, une épreuve, qui lui dit de maudire Dieu et de mourir, alors qu'il a aussi perdu, j'ai passé là-dessus, ses enfants. Il n'a pas seulement perdu ses biens, mais il a perdu ses enfants, ses 10 enfants, et il est resté fidèle, même dans ses pertes. Mais ensuite, l'aide qui aurait pu être à côté de lui, quand il a perdu la santé, parce qu'il est touché dans sa santé, eh bien sa femme lui dit, maudit Dieu, et meurt. Et la 7e épreuve, ce sont ses amis. Ses amis qui viennent pour le consoler, et là alors, il éclate, et le fond qui est dans son cœur se manifeste. Tout à coup, Job, on voit un autre Job qui maudit son jour, etc. Et c'est cela, l'erreur de ses amis, nous l'avons dit, eh bien, c'est que eux croyaient que s'il était ainsi éprouvé, c'est qu'il y avait un péché dans son cœur. Et c'était là l'erreur. Il n'y avait pas de péché dans son... Il n'avait pas péché, il n'avait pas commis une faute. Mais ce qu'il devait comprendre, c'est que aucune de nos justices ne peut tenir devant Dieu. Ça, l'apôtre Paul l'avait compris, n'est-ce pas? Il avait renoncé à tout ce qui pouvait être une justice selon la loi. Il avait compris que non, ce n'était pas ça qui pouvait le sauver. Quant à la justice qui est par la loi, il était sans défaut, mais il avait renoncé à tout cela. Il dit, tout cela, j'estime cela comme des ordures. Eh bien, Job n'estimait pas cela comme des ordures. Il y tenait à sa justice, il tenait à ces choses-là. Et il a fallu qu'il mette tout cela de côté pour en arriver finalement, quand Dieu a voulu lui parler, a fait crier, j'ai horreur de moi, je me repens dans la poussière et dans la cendre. Et voyez-vous, un saint homme qui doit arriver à dire, j'ai horreur de moi. Pourquoi? Parce que Job ne connaissait pas la grâce. S'il était ce qu'il avait été, c'était purement par grâce. C'est cela qui lui manquait. La grâce ne venait que par Jésus-Christ. Il ne connaissait pas la grâce. Il était même un homme qui vivait avant la loi, mais il avait gardé les principes de la loi naturelle et sa conscience ne lui reprochait aucun de ses jours. Au pays des hommes sans Bible, sans la connaissance de la loi, eh bien Job était si fidèle qu'il pensait qu'aucun de ses jours ne pouvait le culpabiliser. Et il peut finir en disant, voilà ma signature. Et il convoque Dieu en quelque sorte au tribunal. Puis quand il est au tribunal, Dieu ne lui répond pas du tout à ses questions. Il le questionne, il lui dit, il lui pose des questions. On en a vu au moins 70 questions. Et Job commence à baisser, à baisser, à baisser. Lui qui voulait se tenir très grand, paraître devant Dieu comme un prince, quand il est dans la présence de Dieu, il s'effondre et il fait faillite. C'est ce qui était arrivé à l'apôtre Pierre. Il était tellement sûr de lui. Mais ce qui lui manquait, Pierre, il était fidèle, confesseur de la foi, il ne se connaissait pas lui-même. Et tant qu'on ne se connaît pas soi-même, on risque quelque chose de très grave. Et voyez-vous, il faut arriver à cette connaissance de soi-même où on ne peut plus se glorifier de rien, mais où on donne toute gloire au Seigneur. Si vous voyez quelque chose de bien dans une vie, ce n'est pas parce que c'est un Superman, mais c'est parce que la grâce de Dieu a opéré en lui. Et si nous sommes debout aujourd'hui, c'est par la grâce. Et Dieu n'était pas fâché contre Job, mais il était vraiment un de ses enfants. Et quand on est des fils, il nous discipline. C'était des épreuves comme discipline pour nous le façonner et l'amener à une plus grande gloire. Et c'est cela que nous avons vu enfin en grand, dans le livre de Job. Alors, s'il manquait quelque chose à Job, et nous avons vu ce qui lui manquait, la connaissance de soi-même, j'ai pensé à nous qui allons nous quitter et plusieurs vont partir et peut-être qu'il peut se dire, est-ce que nous avons tout? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Que vous manque-t-il encore à vous ou à nous? Alors le Seigneur m'a rappelé certaines choses. Que vous manque-t-il encore? Eh bien, dans le chapitre 18, donc, à ce jeune homme riche, que lui manquait-il? Il croyait qu'il avait quelque chose à faire. Est-ce que c'est des choses que vous devriez faire? Vous n'en avez pas assez fait? Tant que vous êtes sur ce principe de vouloir faire, d'augmenter vos bonnes œuvres, vous n'aurez jamais la paix. Sur le principe des œuvres, nous ne trouvons pas la paix. Ce qu'il vous manque peut-être, c'est de vous être abandonné, nous l'avons vu avec Job. Il faut s'abandonner soi-même. C'est pas que puis-je faire encore. Si tu crois que tu peux faire quelque chose, tu es sur le mauvais chemin. Nous ne pouvons rien faire, sinon obéir à ce que le Seigneur nous demande. Et le jeune homme riche, qui n'avait rien à se reprocher, comme Job, mais il croyait qu'il pouvait faire quelque chose. Et quand le Seigneur lui a dit, ce qui te manque, eh bien, c'est de vendre tes biens. Alors vous me direz, mais alors le salut, ça s'achète? Mais pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il aurait vendu ses biens qu'il allait avoir la vie éternelle. Mais ce qui l'empêchait de jouir vraiment de la vie éternelle, c'est qu'il avait encore un attachement à ses biens. Comme Job avait un attachement à sa réputation intacte. Il était parfait, droit, craignait Dieu, se retirant du mal. Il avait une renommée et il tenait à sa renommée. Nous l'avons lu au chapitre 29. Job tenait à son image de marque. Et il a dû perdre son image de marque. C'est tout à fait contraire à l'enseignement qu'on vous donne aujourd'hui. Hein. Dans le monde, il vous faut conserver votre image de marque. Il vous faut l'améliorer. Eh bien non, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'aurez jamais la paix. Il vous faut renoncer à ces biens. Vous êtes trop riche encore, c'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Trop riche, je ne dis pas d'argent, mais vous avez encore trop de qualités auxquelles vous pensez pour vous rassurer. Et ça ne va pas. Laissez tout cela pour suivre le Seigneur. Et c'est seulement en suivant le Seigneur que le jeune homme riche aurait trouvé la vie éternelle. Ce n'est pas en vendant ses biens, mais étant attaché à ses biens, ça l'empêchait de suivre vraiment le Seigneur dans ce renoncement complet, car Jésus ne disait pas que ce serait facile si on voulait le suivre. Il n'a jamais fait une propagande pour que le monde le suive. Tu veux me suivre, renonce à toi-même. Et le jeune homme riche, attaché à ses biens, il n'avait pas renoncé à lui-même. Mais ce que je trouve de merveilleux, c'est que Jésus, tout en sachant que ce jeune homme n'allait pas le suivre dans l'immédiat, il l'a regardé avec amour. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et quand le jeune homme riche a vu le Seigneur mettre le doigt sur la plaie de son propre cœur, comme je vous l'ai dit si souvent, hein, ne vous livrez jamais à l'introspection, ça vous conduit au suicide. Mais dites au Seigneur, montre-moi, ô Dieu, sonde-moi, ô Dieu, mets le doigt sur la plaie de mon propre cœur. Et alors, quand il a mis son doigt sur la plaie, eh bien, obéissez, allez. Eh bien, le jeune homme riche n'était pas prêt à abandonner ses biens, alors il n'a pas suivi Jésus. Mais, quand il lui tournait le dos, eh bien, qu'est-ce qu'il avait encore devant lui? Le visage de Jésus. Le visage de l'amour. C'est pourquoi, dans mon cœur, je suis assuré qu'un jour, ayant perdu tous ses biens et n'ayant plus rien sur quoi s'appuyer, il a eu le souvenir de ce visage d'amour et il a pu invoquer le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sans pasteur, sans prédicateur, sans prêtre. Dieu sauve les âmes. Mais quel est le visage que les chrétiens qui évangélisent donnent à ceux qui repoussent le message? Eh bien, comme je dis souvent, nous leur faisons déjà les grimaces du damné. Bien, puis tu n'acceptes pas aujourd'hui le Seigneur, voilà ce qui t'arrivera, puis tu grinceras les dents, et puis ceci, et puis cela, n'est-ce pas? Puis tu rôdiras au petit feu, là, et puis le diable te piquera, comme ça, avec des fourches, et puis, alors voilà, c'est cela. Mais, mes amis, si Dieu nous avait traités ainsi, il a eu de la patience, nous n'avons pas suivi au premier appel. Souvenons-nous de cela. Et alors, ayez aussi ce visage de l'amour, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et continuez de prier, parce que si c'est impossible, semble-t-il, d'être sauvé, hein, pour Dieu, tout est possible. Est-ce qu'il vous manque cette chose, le renoncement? Le Seigneur peut vous le donner. Le Seigneur peut vous faire comprendre que c'est en renonçant à tout que vous aurez le tout. Et alors, il y a un deuxième point. Alors, vous pouvez savoir à peu près à quoi vous en êtes. Aveugle de naissance. Immédiatement, les disciples, toujours dans la ligne des amis de Job, disent « Qui a péché ?» C'est toujours la pensée qu'on a. Hein. Voilà, un homme qui est dans l'épreuve, et nous disons des bêtises. Hein. Qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Donc, il aurait péché avant sa naissance. Il aurait péché dans le ventre maternel, je pense qu'il donnait trop de coups de pied à sa mère. Alors voilà, il est né aveugle, n'est-ce pas? Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Il était impossible dans la grossesse, alors bon, il est né aveugle. C'est ça votre conception? Jésus dit, ni celui-ci, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, de lui, par lui, pour lui sont toutes choses. C'est le thème du temps, de lui, par lui, pour lui. Oh, que nous puissions garder cela et que vous qui n'y étiez pas, vous compreniez qu'il n'y a rien qui se fait sans le Seigneur. Tout est de lui, tout est par lui et finalement tout est pour lui. Romains chapitre 11, verset 36. Gardez cela dans vos cœurs. Et alors, évidemment, quand on vient d'être en contact avec le Seigneur, et qu'on ne l'a même pas vu, mais qu'on a obéi, et qu'on s'est laissé traiter, ben vous savez, c'est pas très drôle comme il nous traite, le Seigneur. Il crache, et puis il fait de la boue, et puis il colle cette boue à vos yeux. Est-ce que vous allez vous laisser faire? J'ai dit, servir le Seigneur, c'est pas faire des choses pour lui, c'est se laisser faire par lui. Mais Seigneur, je suis déjà aveugle, puis tu me mets encore de la boue sur des yeux que je n'ai pas. Et vous savez, c'est exceptionnel. Mais le Seigneur lui a dit une parole, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Eh bien, tout ce que l'aveugle a entendu de Jésus, c'est sa voix. Mais il ne le connaît pas, lui, il ne l'a pas vu. Il va, il obéit à la parole, il va au réservoir de Siloé, un réservoir que j'aime beaucoup visiter, et quand il remonte, il est voyant. Alors, c'est l'étonnement, tout le monde dit, mais c'est lui, c'est pas lui, parce que qu'est-ce qui donne une expression au visage? Ce sont nos yeux. Tant qu'il n'y avait pas Dieu, on pouvait bien ne pas le reconnaître, mais il n'a plus la même expression, il est changé. Mais quand on a vraiment rencontré Jésus, eh bien, il y a un changement, il y a une transformation. Même si on ne l'a pas vu encore, mais lui, on lui pose des questions qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut pas répondre. On lui dit, cet homme qui t'a guéri, c'est un pécheur. Bon. S'il est un pécheur, je ne sais. Il n'est pas théologien, il ne sait pas qui est Jésus. Mais en tout cas, je sais une chose, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup, hein. Mais je sais une chose, j'étais un aveugle et maintenant, je vois. De cela, il est sûr. Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? C'est la première chose, hein. S'il vous manquait quelque chose, bien, renoncez. Mais maintenant, vous devez savoir une chose. L'assurance du salut. Le Seigneur vous a touché et vous allez apprendre à le connaître. Vous allez grandir dans la connaissance de Jésus. Mais pas seulement au début de votre conversion, mais tard dans la vie chrétienne. On est toujours à l'école. On apprend chaque jour. Écoutez Saint Paul qui dit du fond de sa prison à Rome, très près du martyr, eh bien, je n'ai qu'une chose que je désire, c'est de le connaître, lui. Et la puissance de sa résurrection pour pouvoir entrer dans la communion de ses souffrances, pour être rendu semblable à lui dans sa mort. Vous voyez l'apôtre Paul qui est toujours à l'école, qui ne se plaint pas. Et alors, on arrive à un autre degré, que je vous signale pour que vous puissiez le lire, je vous donne des pistes de réflexion et vous les défricherez vous-même. Comme je dis souvent, vous en ferez des avenues, mais je vous donne des pistes et alors vous ne pouvez pas dire après que vous n'êtes pas nourri de la parole. Dans le chapitre 10 de Luc, oh un récit si merveilleux, Jésus arrive à Béthanie, puis là il y a enfin un foyer qui l'accueille, où il se sent aimé, il y a Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Ce Lazare qui allait connaître la puissance de Dieu par une résurrection. Et évidemment, c'est pas très drôle quand Jésus arrive. Il arrive avec qui? 12 hommes qui ne sont pas très bien éduqués. Je ne sais pas s'ils avaient l'ossé, mais en tout cas, probablement qu'ils ne se lavaient pas toujours et l'odeur corporelle, c'est des fois c'est difficile à supporter. Alors, Marthe, immédiatement, elle se met au service, à la cuisine, c'est une cuisinière émérite, une bonne ménagère, elle veut recevoir Jésus d'une manière convenable. Alors, elle va au fourneau, les casseroles, sa barbe, tout ça, mais elle est seule avec tout service, 13 personnes à table, puis enfin, Lazare et les autres, mais c'est quand même quelque chose. Et Marie, elle reçoit le Seigneur au salon, et il s'asseye, et puis elle se met à ses pieds, et elle écoute sa parole. Elle écoute sa parole, puis elle en oublie complètement le service, parce qu'elle est là auprès du Seigneur. Elle écoute sa parole. Alors, Marthe commence un petit peu à s'énerver. Hein. L'heure arrive, il faut encore se servir, et puis, mais c'est ça qui est merveilleux, elle va et elle le dit à qui? Il lui dit au Seigneur, « Seigneur, ne te mets-tu pas en peine? J'ai tout le service à faire, et puis ma sœur ne m'aide pas. Dis-lui qu'elle m'aide. Dis-lui qu'elle m'aide. » Et Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Tu n'as pas besoin de faire tous ces trucs-là. Une seule chose est nécessaire. Ça peut être littéral, ça aussi. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Mais tu pouvais faire une seule chose. Ou aussi, une seule chose est nécessaire. C'est plus nécessaire d'écouter la parole, d'être à ses pieds, que de vouloir bien faire pour servir le Seigneur, pour l'honorer. Le Seigneur se contente de moins. Et vous vous fatiguez pour lui. Alors qu'il vous dit, mais c'était pas nécessaire tout ce que tu as fait là. Une seule chose me suffisait. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et c'est heureux, hein. Et vous savez, cette petite friction entre Marthe et Marie, ça a très bien fini, parce que quand Jésus est parti, et que Marie était alors avec sa sœur pour faire la vaisselle, il n'y avait pas encore des machines à laver la vaisselle, Marthe a dit tout à coup à Marie, « Dis-moi Marie, qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Mais si elles avaient été les deux à la cuisine, elles n'auraient rien reçu. » Tandis que Marie avait reçu dans son cœur, et pouvait ensuite dire à Marthe tout ce que le Seigneur lui avait dit. Et c'était noble qu'on ne laisse pas le Seigneur tout seul au salon. Alors les parts étaient distribuées, chacun n'a pas le même ministère, mais Marie a pu être en bénédiction à Marthe, et Marthe a certainement reconnu qu'elle avait eu tort de s'énerver de sorte que le soleil ne s'est pas couché sur leur irritation. Et c'est cela qu'on a essayé d'apprendre. Une seule chose est nécessaire. Croyez-le bien, mes bien-aimés, si vous voulez progresser, mettez la parole en premier. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et puis, alors, après l'écoute de la parole, la communion à entretenir avec le Seigneur, eh bien, il y a la vie de prière, et je vous cite le psaume 27, ce merveilleux psaume que Jean Hus, un des martyrs qui a précédé la Réformation, Jean Hus, montant au bûcher, quand il a vu le bûcher où il serait brûlé vif, parce qu'il avait compris certaines vérités de l'Écriture, et qu'il avait proclamé, on lui demandait de renier ça. Il n'a pas voulu renier, alors que son camarade, lui, a renié un de ceux qui étaient emprisonnés avec lui, Jérôme de Prague. Eh bien, lui a renié. Mais Jean Hus a eu un moment de frayeur, quand même, quand vous voyez le bûcher là, et puis qu'on va vous attacher sur le bois et que ça va brûler, que vous allez brûler là. Il a eu un moment d'angoisse, cette angoisse physique que crée la mort. Hein. Puis tout à coup, le Seigneur lui a parlé. Et il a récité, il est monté sur le bûcher en récitant. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Et il est monté sur le bûcher en récitant le psaume 27. Et c'est dans ce psaume 27 que vous trouvez cette belle parole, « J'ai demandé une chose à l'Éternel ». Vous savez, quand nous sommes nouveaux convertis, nous avons toute espèce de sujets de prière, nous prions pour ceci, nous prions pour cela, et alors nous passons des journées peut-être de prière, c'est très bien si vous voulez, mais plus vous avancez dans la vie chrétienne, moins vous avez de choses à demander. « J'ai demandé une chose à l'Éternel ». Et je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, à tout instant, à tout moment, que je sois dans ce contact dont nous avons parlé dans le cantique, avec le Seigneur. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai. Vous savez, notre vie de prière, elle est bien simplifiée, parce qu'on s'attend au Seigneur, on est en contact avec lui, et on sait qu'il s'occupe de nous. Ce ne sont plus nos besoins que nous lui faisons mention, mais nous avons plutôt une intercession pour les autres. Et quant à nous, nous avons des actions de grâce, parce qu'il s'occupe de nous. « Occupe-toi de moi, dit le Seigneur, moi je m'occuperai de toi. » Et il s'occupe tellement mieux de nous que nous ne pourrions le faire nous-mêmes, qu'on est toujours dans l'action de grâce. C'est le psaume 34, n'est-ce pas ? La louange est continuellement sur nos lèvres. Soyez des préoccupés de vous-même. Et alors, vous aurez la paix. Vous aurez une vie de prière, d'exaucement. Et les exaucements, eh bien, provoquent des actions de grâce. C'est pourquoi il a dit, en toute chose, rendez grâce. Je n'ai pas à m'efforcer de rendre grâce, mais ça devient spontané. Ça devient spontané. Je ne m'exhorte pas à rendre grâce. Mais ça monte de mon cœur. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Et alors, vous arriverez à un cinquième point où on se dit, comme l'apôtre Paul, qui, et c'est très dangereux aujourd'hui, vous voyez un tas de gens qui veulent, ils veulent servir le Seigneur, mais il faut qu'ils en sachent davantage. Alors, ils vont aux grandes écoles du monde. Et qu'est-ce qu'ils apprennent aux écoles du monde? À douter de la parole de Dieu. Et, mais ils veulent un titre, ils veulent des titres, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur, pour être accrédités, pour être reconnus. Finissez-en avec ce piège-là. Je ne vous dis pas de ne pas étudier, mais si c'est dans le but d'avoir une référence, d'avoir un titre, de pouvoir vous présenter avec un diplôme, eh bien, accrochez-le dans vos toilettes, votre diplôme. C'est pas cela dont vous avez besoin. L'apôtre Paul, il avait prêché chez les Grecs à Athènes, et il avait cru devoir montrer aussi devant ses philosophes toute sa science. Alors il a cité des auteurs grecs, vous êtes la race de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat à Athènes? Pas grand-chose. C'est un magnifique discours, hein, bien construit. Et puis, au fond, il est déçu quand il part. Il y a bien toujours la grâce de Dieu, d'Amaris, et puis Denis, l'Aréopagite, mais il n'est pas question d'une église qui aurait été fondée à Athènes par l'apôtre Paul. Hein. Mais, quand il arrive à Corinthe, il a pris la leçon, et au chapitre 2 des Corinthiens, il dit, « Quand je suis venu à Corinthe, cette ville de la licence, cette ville des lupanards, cette ville qui était la plus corrompue, puisqu'on disait, de ce temps-là, vivre à la Corinthienne. Hein. » Vivre à la Corinthienne, c'était faire les 100 coups, au point de vue sexuel. Eh bien, quand il arrive là, il dit, je ne veux pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà, sa science, ce n'est pas autre chose que Jésus-Christ crucifié. Mais il sait très bien que parler d'un crucifié comme sauveur à des Grecs, c'est une folie. Parler d'un crucifié à des Juifs, c'est un scandale. Maudit quiconque est pendu au bois. Alors, il n'essayera pas de faire passer le scandale ou de rendre cette folie sage, non. Il abandonne tout cela et il prêche le scandale de la croix, il prêche la folie de la croix. Et c'est ainsi que peut-être un peu découragé, il pense quitter Corinthe quand une nuit, le Seigneur lui dit, j'ai un grand peuple dans cette ville. Ne crains pas, ne t'effraie point. Et il lui demande de rester. Et il y a l'église des Corinthiens qui est fondée. Lui qui allait partir cette nuit-là, il y reste à peu près 18 mois. Et vous avez l'église de Corinthe avec ses lumières et avec aussi ses faiblesses. Mais là, souvenez-vous de ça. Je ne veux connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que votre science soit le Christ crucifié, parce que c'est dans sa mort que nous avons tout. Quand Pierre a voulu s'opposer à la mort du Seigneur, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Tes pensées sont aux choses des hommes et non pas aux choses de Dieu. Et qu'est-ce qui influence les hommes, les pensées des hommes? C'est Satan. Alors ne vous mettez pas sous la domination de Satan quant à vos pensées. Je ne veux pas savoir autre chose. 1 Corinthiens 2, verset 2. Notre science, c'est le Christ. Et puis, alors, j'aime beaucoup la traduction d'Arby parce qu'elle est très fidèle. Non seulement je ne veux pas savoir autre chose, mais pour l'unité des chrétiens, je ne veux penser qu'à une seule chose. Et c'est ainsi qu'est traduit le verset du chapitre 2 des Philippiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, et ici se dit une même pensée, Darby dit pensant à une seule et même chose. Et quand vraiment notre pensée est captivée par cette seule chose qui est d'en haut, le Christ, n'est-ce pas? Eh bien, quand on n'a plus que cette pensée, maintenant, nous avons, par la grâce de Dieu, nos pensées ont été amenées captives à l'obéissance du Christ. Alors, notre pensée n'est pas en dehors du Christ. Nous pensons à lui. Et toutes choses sont réunies en lui. Alors, maintenant, nous terminons en pouvant dire, comme Paul à la fin de sa course, je fais une chose. Vous voyez, c'est toujours une chose. Ce sera un message assez facile que vous pourrez méditer et vous avez les étapes, on arrive à ne faire plus qu'une chose. Oubliant les choses qui sont derrière. Vous n'allez pas vivre des expériences passées. Ceux qui sont venus à Mahanaïm, vous n'avez pas besoin de parler de Mahanaïm. Vous avez à vivre ce que vous avez pu recevoir. N'est-ce pas? Alors, oubliant les choses qui sont derrière, mais tendons avec effort vers celles qui sont devant, faites une chose. Ne vous croyez pas arriver. Ne croyez pas que vous en savez plus que les autres. Ce serait lamentable. Mais comprenez que vous n'avez plus qu'à faire une chose, oubliant ce qui est derrière. Et c'est cela, hein. Vous êtes paralysé parce que vous gardez le souvenir de ce qui est derrière. Finissez-en avec votre passé. Le Seigneur l'a couvert par le sang de Christ. Plus de culpabilité. Ne vous culpabilisez pas. S'il y a quelque chose, confessez-le au Seigneur. Et si c'est confessé, sachez qu'il vous a pardonné et que vous pouvez aller de l'avant comme Pierre et qui avait renié son maître. Il était tellement délivré de cette culpabilité qu'il aurait pu le suivre toute sa vie et le paralyser. Eh bien, cet homme a été libéré. Le diable avait demandé à cribler Pierre. Mais le Seigneur lui dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et alors, dans la foi, Pierre, libéré de son passé, pouvait dire aux Juifs, vous avez renié le saint et le juste. C'est merveilleux, ça. S'il y avait une chose qu'il n'aurait pas osé dire, c'était cela, hein, parce que lui l'avait renié. Eh bien, le Seigneur nous libère complètement de ce passé. Ne revenez pas toujours au passé. C'est Satan qui vous y fait revenir et qui vous déprime. Allez de l'avant. Ne faites plus qu'une chose. Laissez-vous faire par le Seigneur au début de votre vie chrétienne, au lieu de vouloir faire des choses pour lui. Ce n'est pas faire des choses qui nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, elle est venue d'en haut. Elle est apparue. Jean dit, nous l'avons vue. Et nous l'annonçons, la vie qui était auprès du Père. Nous l'avons vue. C'est quelque chose qui se voit, la vie éternelle. Alors, louez le Seigneur. Entrez dans la louange. Et je résume tout cela. Que notre avenir soit vraiment maintenant une chose pour le Seigneur. Je lis un résumé de tout cela. Dans le psaume 34, verset 10, « Craignez le Seigneur, vous tous les saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Une chose te manque. Nous avons commencé par cela. Hein? Et nous finissons par « Rien ne manque. » Est-ce qu'il vous manque quelque chose? « Rien ne manque à ceux qui le craignent. » Alors, allez à Jésus. Laissez-le mettre le doigt sur la plaie. Une chose te manque, ben voilà, c'est ça, ça, ça. Moi, je ne peux pas vous nommer la chose qui vous manque. Puis ensuite, pour le suivre, oui, renoncez à tout. Et dans le chemin, vous aurez cette certitude qu'avec lui, en lui, il est la vie éternelle. Cultivez la communion avec le Seigneur, comme l'avait compris Marie. Et puis, votre vie de prière, qu'elle soit transformée, on ne demande plus qu'une chose. Que votre science soit l'amour du Christ. Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute science. Et alors, pour l'unité dans l'Église, dans la communauté, eh bien, ne pensez qu'à une seule et même chose. Pensez à la personne du Seigneur. Non pas à certaines vérités, parce que ça vous divise. Globalement, toutes les vérités sont en Jésus. Ayez toujours le Seigneur devant vos yeux. Et alors, ne faites plus qu'une chose. Ne vous croyez pas arriver. Courez cette course. Et alors, comme Moïse, votre visage rayonnera parce que vous avez parlé avec lui. Et je termine par ce verset de Paul à son enfant Timothée. Occupe-toi de ces choses que je viens de vous énumérer. Sois-y tout entier. Attache-toi à la lecture jusqu'à ce que je vienne. Ainsi tes progrès seront évidents à tous. C'est la prière que nous te demandons, c'est que nos bien-aimés repassent ces choses dans leur cœur par le Saint-Esprit qui devient notre mémoire. Que tous ensemble, nous puissions progresser et que le monde puisse voir nos progrès dans l'intimité que nous aurons avec toi. Merci de nous apprendre à nous connaître nous-mêmes, à savoir que nous ne pouvons rien faire pour avoir la vie éternelle, que tu nous la donnes, que c'est toi qui es la vie éternelle et que nous avons à te recevoir, mais à te recevoir dans ta plénitude, à n'être pas seulement de ceux qui ont entendu parler de toi, mais de ceux qui t'ont vu et qui se sont repentis dans la poussière et dans la cendre et qui ont connu non seulement la vie, mais la vie en abondance. Car c'est pour cela que tu es venu. Que ton nom soit loué, Père de grâce, Père de miséricorde, Père saint et juste, Père de toute consolation, nous te bénissons par Jésus que tu nous as donné et en qui nous avons trouvé toutes choses. Car en le trouvant, nous avons trouvé toutes choses. Tout est de lui. Tout est par lui et tout est pour lui par la toute-puissance du Saint-Esprit qui nous anime, qui nous remplit et que nous te demandons de ne jamais contrister pour ta seule gloire. Amen.